23h39.
Chapitre 68, la couverture.
Je ne porte pas un mince intérêt à la question très controversée de la peau de la baleine. J'ai eu là-dessus des polémiques, en mer avec des baleiniers expérimentés et à terre avec des savants naturalistes. Mon opinion première demeure inchangée, mais ce n'est qu'une opinion. Il s'agit de savoir ce qu'est la peau de la baleine et où elle se trouve. Vous savez déjà ce qu'est son lard. Ce lard a la fermeté d'une viande de bœuf au grain serré, mais il est plus dur, plus élastique et plus compact, et sa couche varie de 8 à 10 ou 12, voire 15 pouces d'épaisseur. Si absurde qu'il puisse paraître, de prime abord, de parler de peau au sujet d'un tégument d'une telle consistance et d'une telle grosseur, ces contre-arguments n'ont pourtant aucune valeur, car on ne peut dépouiller le corps de la baleine d'aucune autre enveloppe que ce même lard. Et qu'est-ce que l'enveloppe extérieure d'un animal lorsqu'elle présente quelques épaisseurs sinon sa peau? Il est vrai, sur le corps encore intact de la baleine morte, on peut gratter du doigt une substance qui se révèle excessivement fine et transparente, semblable à de très minces lamelles de mica. Mais qui a la souplesse et la douceur du satin, du moins, avant qu'elle n'ait séché, car alors non seulement elle se rétracte et s'épaissit, mais elle devient passablement dure et cassante. J'en ai en ma possession plusieurs de ces fragments de peau sèche dont je me sers pour marquer les pages de mes livres relatifs aux baleines. Cette substance est transparente, comme je viens de le dire, et posée sur la page imprimée, je me suis parfois plu à imaginer qu'elle possède un pouvoir grossissant. En tout cas, il est fort agréable de lire des histoires de baleines avec des lunettes qu'elles vous fournissent, pour ainsi dire. Mais voici où je veux en venir. Cette même substance, de la plus extrême finesse et pareille à du mica, qui, je le reconnais volontiers, habille le corps entier de la baleine, ne saurait être regardée comme sa peau, mais plutôt comme la peau de sa peau, en quelque sorte, car il serait tout simplement ridicule de prétendre que la peau de ce monstre colossal est plus mince et plus tendre que l'épiderme d'un nouveau-né. Mais il suffit. Si l'on veut bien admettre que le lard est la peau du cétacé, celle-ci donnera, dans le cas d'un gros cachalot, quelques 100 barils d'huile, et si l'on considère que cette huile, une fois extraite, ne représente en quantité ou plutôt en poids que les trois quarts, et non la totalité, du vêtement, on se sera fait une idée de l'énormité de cette masse animée, dont une partie seulement de ce qui n'est que le tégument fourni pareil lac de liquide. En comptant 10 barils à la tonne, cela donne un poids net de 10 tonnes pour les trois quarts de la substance dont est faite la peau de la baleine. La surface visible du cachalot, quand l'animal est vivant, n'est pas la moindre des merveilles qu'il offre au regard. Elle est presque toujours couverte d'innombrables hachures obliques et serrées qui se croisent en tous sens, un peu comme sur les plus belles gravures italiennes. Ces marques ne semblent pas imprimées sur la pellicule transparente de mica, évoquée plus haut, mais donnent l'impression qu'on les voit à travers elle, comme si la taille avait été faite sur le corps même. Et ce n'est pas tout. Il est des cas où, pour l'œil d'un observateur vif et pénétrant, ces traits, comme dans une véritable gravure, ne constituent qu'un arrière-plan pour de tout autre dessin, qu'on peut bien dire hiéroglyphique, si l'on s'accorde à appeler hiéroglyphes les symboles mystérieux qui ornent les murs des pyramides. Ma mémoire a gardé le souvenir précis des hiéroglyphes, d'un cachalot en particulier, que j'ai été très surpris de retrouver sur une illustration qui montrait les vieux cétacés indiens gravés sur les célèbres escarpements à hiéroglyphes qui se dressent sur les rives du Mississippi supérieur. Comme ces rochers énigmatiques, la baleine au signe sibyllin demeure indéchiffrable. Mais cette allusion aux rochers indiens me rappelle encore autre chose. En sus de tous les autres phénomènes que présente l'apparence du cachalot, il n'est pas peu fréquent que les stries régulières de son dos, et plus particulièrement de ses flancs, soient en grande partie effacées sous de nombreuses et grossières éraflures, d'un trait irrégulier, et faites comme au hasard. J'oserais dire que ces rochers marins de la Nouvelle-Angleterre, dont Agassiz pense qu'ils portent les marques des rudes raclements d'énormes icebergs à la dérive, J'oserais dire que ces rochers n'offrent pas une mince ressemblance avec le cachalot à cet égard. Il me semble également que ces égratignures sont sans doute les traces de rencontres belliqueuses entre baleines, car je les ai surtout repérées sur le corps des plus puissants mâles adultes de l'espèce. Encore un mot ou deux au sujet de la peau ou l'art de la baleine. Ainsi qu'on l'a dit, cette peau lui est retirée en longues bandes appelées « blank piece » ou « couverture ». Comme la plupart des termes de marine, celui-ci est à la fois heureux et subjectif, car la baleine est véritablement enveloppée dans son lard, comme dans une couverture ou une contrepointe, ou mieux, couverture d'un poncho indien qu'on lui aurait passé par la tête et qui descendrait jusqu'à son extrémité. Son corps, ainsi douillettement emmitouflé, la baleine peut jouir d'un égal confort par tous les temps, sous tous les climats, dans toutes les mers et à toutes les profondeurs. Que deviendrait une baleine du Groenland, par exemple, dans les eaux glaciales et frissonnantes du Nord, si elle n'était pas pourvue de ce moelleux? Et surtout, que deviendrait une baleine du Groenland, par exemple, dans ces eaux glaciales et frissonnantes du Nord, si elle n'était pourvue de ce moelleux surtout? Il est vrai que l'on trouve des poissons fort alertes dans ces régions hyperboréennes, mais ceux-ci, notons-le, sont des poissons à sang froid, sans poumons, dont l'en-ventre est une véritable armoire frigorifique, des créatures qui se chauffent sous le vent d'un iceberg, comme un voyageur en hiver ferait au coin d'une cheminée d'auberge. La baleine, elle, comme l'homme, a des poumons et le sang chaud. Si son sang se fige, elle meurt. Quelle merveille alors, tant qu'on n'a pas expliqué la chose, de voir ce grand monstre auquel la chaleur corporelle est aussi nécessaire qu'à l'homme, se sentir chez lui, immerger jusqu'aux lèvres sa vie durant dans ses eaux arctiques, alors que des marins tombés par-dessus bord sont parfois retrouvés des mois plus tard, raides, gelés au cœur des champs de glace, comme des mouches mortes, engluées dans l'ambre. Mais c'est avec une plus grande surprise encore que l'on apprend, des expériences l'ont prouvé, que le sang d'une baleine du pôle est plus chaud que celui d'un nègre de Bornéo en été. Il me semble que se montre ici la rare vertu d'une forte vitalité individuelle, la rare vertu de murs épais et d'un vaste espace intime. Homme, admire et imite la baleine. Comme elle, préserve ta chaleur parmi les glaces. Comme elle, sache vivre dans ce monde et n'appartient qu'à toi-même. Conserve ta fraîcheur à l'équateur et garde-toi le sang, fluide au pôle. À l'instar du grand dôme de Saint-Pierre et de la sublime baleine, protège en toute saison, ô créature humaine, le climat qui est le tien. Mais il est facile et finalement inutile de faire ces beaux sermons. Combien peu d'édifices possèdent un dôme comparable à celui de Saint-Pierre? Combien peu d'hommes peuvent prétendre à la vastitude de la baleine?